Alors, merci beaucoup pour ce temps d'adoration, de reconnaissance, d'action de grâce, ce cheminement que nous faisons aussi en suivant ce que Christ a fait pour nous. Nous allons poursuivre notre méditation de l'épître de Jean et je vous invite à lire au chapitre 2 les versets, nous allons lire les versets 12 à 14, juste quelques versets pour ce matin. L'épître de Jean, au chapitre 2, les versets 12 à 14. Comme c'est les vacances, les enfants normalement censés être parmi nous, mais c'est jamais des mamans, notamment des enfants en bas âge, souhaitent sortir, sentez-vous libres, bien entendu. L'épître de Jean, chapitre 2, les versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, je vous écris, jeunes gens. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Jusqu'ici, notre lecture. Depuis le début de ce chapitre, Jean donne des critères d'une vie chrétienne authentique, d'une vie chrétienne conforme à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les versets 3 à 6 de ce chapitre, Jean indique que l'obéissance à la parole de Dieu est indispensable pour une vie chrétienne authentique. En d'autres termes, nous ne pouvons pas connaître Dieu réellement en dehors de l'obéissance à ses commandements, de l'obéissance à sa parole. Et dans les versets 7 à 11, il dit aussi un deuxième critère qui est l'amour fraternel que les frères et sœurs doivent vivre ensemble. Et il résume aussi neuf, celui qui dit qu'il est être dans la lumière tout en détestant, en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui, il n'y a point de chute ou de cause de chute. Deuxième critère, c'est l'amour fraternel. Et avant d'aborder le troisième critère qui portera sur la foi en Jésus et en Jésus seul, c'est-à-dire un critère de doctrine, d'enseignement, Jean prend le temps de dire d'abord quelques mots pour l'Église. Et il le dit pour les frères et sœurs et après il dira un mot aussi en lien avec la vie, avec le monde, la relation de l'Église avec le monde dans les versets que nous n'avons pas lus, du verset donc 15 à 17. Mais ici, donc, Jean prend le temps de dire un mot pour l'Église dans les versets que nous avons lus. Et il va se servir des différentes étapes de la vie humaine pour s'adresser aux différents membres de l'Église, quel que soit leur développement ou leur étape spirituelle, leur développement, leur croissance spirituelle. Jean évoque trois étapes de la vie humaine qu'il applique aux chrétiens. D'abord, il parle des petits-enfants. Ensuite, des jeunes gens, et après, des pères. Et pour chacune de ces étapes, Jean va donner des critères un peu spécifiques. Et en se servant des petits-enfants, des jeunes gens, des pères, ou des enfants, des jeunes et des pères, Jean, en se servant de cette catégorie, de ces catégories-là, pour s'adresser à l'ensemble de la communauté, Jean dit aussi que les chrétiens forment une famille dans laquelle ils sont invités à grandir, dans laquelle ils sont invités à se développer et à avancer sur le plan spirituel. Les petits-enfants sont invités à devenir des jeunes gens et les jeunes gens à devenir des pères qui, dans la foi, des pères dans la foi, pour être en bénédiction pour les autres. Et c'est ainsi qu'au sein de la famille de Dieu, c'est ainsi au sein de la famille de Dieu que nous avons des frères et sœurs, des pères dans la foi, qui sont là pour nous aider à grandir et avancer, nous permettre d'aller encore plus loin dans notre cheminement spirituel. Que dit Jean maintenant de ces étapes, de chacune de ces étapes de la vie spirituelle. D'abord, il évoque les petits-enfants, les petits. La première chose que Jean souligne concernant les petits, c'est le fait que leurs péchés soient pardonnés. Ils sont pardonnés à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès la conversion, dès notre entrée dans la famille de Dieu, dès la nouvelle naissance en Christ, nos péchés sont pardonnés. Il est important de le noter, car ce n'est pas notre vie de consécration ou de sanctification qui va faire que nos péchés seront pardonnés. Non, c'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce que Christ a, le fait que Christ a payé le prix de notre désobéissance. Ce n'est pas le degré de notre engagement qui va déterminer s'ils nous sont pardonnés ou pas, mais c'est le fait que Christ est mort pour nous, c'est le fait que Christ s'est engagé pour nous. En effet, dire que Christ nous promet, le pardon de nos péchés dès notre conversion est important de l'entendre et de le recevoir. Nous ne sommes pas obligés, comme cela est enseigné dans certaines religions, nous ne sommes pas obligés d'aller de mourir au martyr pour obtenir le pardon de nos péchés, pour obtenir le salut de notre vie, de notre âme. Non, le salut, le pardon de nos péchés nous sont offerts parce que Christ a agi à notre égard. Et vous savez, l'une des raisons, et nous aurons l'occasion de revenir ici, l'une des raisons pour laquelle des fondamentalistes djihadistes en particulier recrutent en masse, y compris dans nos banlieues françaises, l'un des arguments phares, c'est le fait d'avoir l'assurance du salut lorsque on est mort ou martyr dans le djihad. Or, pour nous chrétiens, notre assurance de salut n'est pas fondée sur ce que nous allons faire pour le Seigneur. Notre assurance du pardon est fondée sur Christ, ce que Christ a fait. Dès notre conversion, dès que nous venons à la vie nouvelle en Jésus-Christ, nous devons entendre ce que Jean nous dit ici, nos péchés sont pardonnés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par le fruit des œuvres que vous auriez accompli. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et l'une des premières choses qu'un nouveau converti, que nous devons comprendre dans notre cheminement chrétien, de la vie chrétienne, en découvrant la vie chrétienne ou la foi chrétienne, c'est le fait d'être pardonné par Dieu. Et que ce pardon est fondé non pas sur nos capacités, à ce que nous allons accomplir, aux exploits religieux que nous allions réaliser, j'espère qu'ils seront nombreux, mais il est fondé sur l'amour de Christ seul, manifesté par son œuvre à la croix de Golgotha. Jésus a rappelé dès le début, Jean a rappelé dès le début, de cette étape, que dès le début de cet épître, que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Savoir que nos péchés sont pardonnés, confessés devant le Seigneur, savoir qu'ils sont pardonnés, cela nous encourage et nous aide à tirer bien des conclusions concrètes pour notre vie chrétienne de tous les jours. Et j'aimerais vous proposer quelques-unes. La première, c'est la reconnaissance. Le Seigneur nous a pardonnés, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais par grâce, par amour pour nous. Et en d'autres termes, nous méritions rien de sa part. Ou bien pour être plus précis, peut-être nous méritons le jugement de sa part. Nous méritons sa colère à cause de notre désobéissance et d'autres péchés. Mais le Seigneur a choisi de nous pardonner alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore loin. Et cela inspire la reconnaissance dans notre cœur. Cela doit nous conduire à une vie de reconnaissance envers ce merveilleux Dieu, ce merveilleux Seigneur qui nous a tant aimés, qui nous a tant pardonnés. La deuxième, bien sûr, implication du pardon de Dieu à notre égard, alors que nous ne le méritons pas, c'est qu'à notre tour, nous sommes invités à exprimer, à manifester notre pardon. C'est ce que le Seigneur lui-même nous enseigne dans la prière, le Notre Père. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans notre conversion, nous comprenons que nous sommes pardonnés d'une dette immense. Comment retenir les petites dettes aussi graves et aussi dramatiques peuvent-elles de ceux et celles qui nous entourent? Le Seigneur nous engage sur le chemin, le pardon de Dieu nous engage sur le chemin de pardon. Enfin, une dernière implication, c'est la confiance que le pardon fait naître aussi dans notre cœur. Étant petit enfant, spirituellement, nous sommes pardonnés, nous savons que Dieu nous a tout pardonné et par conséquent, nous pouvons avancer, nous pouvons avoir la confiance que ce Dieu va continuer à nous pardonner et va continuer à nous conduire sur son chemin, sur ce chemin de la foi, de l'assurance et de la confiance. Je sais sur cette base-là que le Seigneur continuera à me pardonner et à me faire grandir. Et pour parvenir dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu unique, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude de Christ, qui ne vient de Christ. C'est dans Éphésiens 4, c'est ce que Paul écrit. Voilà donc, entre autres, les implications concrètes de savoir que nous sommes pardonnés dès le début, et non pas à la fin de notre parcours, mais dès le début, nous sommes pardonnés. Et c'est ce pardon que Jean rappelle à tout nouveau converti, à tout nouvel enfant qui est né de Dieu. Nos péchés sont pardonnés à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la deuxième chose que Jean rappelle aussi pour les enfants, pour ceux qui découvrent la foi, la deuxième chose que Jean rappelle, c'est le fait qu'arrivés dans la famille de Dieu, nous devons savoir aussi que nous devenons, Dieu devient pour nous notre Père. À la fin du verset 13, Jean indique que les jeunes enfants ont connu le Père. Je vous ai écrit, jeune enfant, parce que vous avez connu le Père. La foi en Christ, en effet, fait de Dieu pour nous notre Père. Et nous pouvons l'appeler en toute assurance, en toute confiance, notre Père. Et ce, dès le commencement, dès notre conversion, dès l'intégration de la famille de Dieu, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, écrit l'apôtre Paul, sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans Romains 8. Dieu donc nous invite à une relation filiale avec lui, une relation de confiance, une relation de sécurité que nous devons avoir, et ce, dès le début de notre conversion. Ce n'est pas jusqu'au jour où nous serons des initiés, où nous sommes parvenus à la perfection. Non, ça c'est dès le début de notre conversion. Car si autrefois nous nous approchions de nos divinités, autrefois, ou de Dieu avec tremblement, avec crainte, comme le faisait aussi le peuple d'Israël dans le désert, maintenant c'est avec confiance et assurance que nous pouvons nous approcher de Dieu, parce que nous savons, certes, il est aussi le juge, le juste juge. Mais nous nous approchons de lui aussi comme étant notre Père. Il est notre Père. Auprès de notre Père céleste, nous avons la compréhension, le confort, nous avons le soutien nécessaire pour grandir, pour se développer, pour devenir des adultes. Jésus indique clairement que si les pères humains savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel, dans le serment sur la montagne. Nous sommes invités à faire connaître nos besoins à notre Père céleste, et nous sommes invités à le voir aussi agir, intervenir dans notre vie quotidiennement et nous faire grandir en le voyant agir également au quotidien. C'est lui qui sait changer les circonstances, transformer des situations, qui peut nous donner la joie, le bonheur. C'est lui qui sait donner l'abondance, même au cœur du désert, même dans des lieux arides. Le Seigneur sait ouvrir les portes que personne ne peut fermer. Il sait aussi fermer les portes que personne ne peut ouvrir. Voilà pourquoi nous pouvons venir avec nos demandes auprès de notre Père. Il saura les exaucer au bon moment, car il est notre Père et il veut des bonnes choses pour nous. Donc, nos demandes s'inscrivent dans ces bonnes et belles choses que Dieu veut pour nous. Le Seigneur nous les accordera avec beaucoup de bonheur et de joie, comme un père humain accorderait à ses enfants ce dont ils ont besoin. Mais parfois, il nous arrive de penser que certaines choses sont bonnes pour nous, mais qu'en réalité, elles ne le sont pas. Et en arrivant dans la famille de Dieu, nous soumettons aussi notre pensée à celle de notre Père pour recevoir de lui ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas, ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas. Jean donc nous rappelle que nous sommes pardonnés de Dieu et que Dieu est notre Père. Et ce, dès le début de notre cheminement avec lui. Jean emploie deux mots différents pour parler des enfants, des petits-enfants. Et sa traduction en français essaie de rendre compte de cette différence en disant petits-enfants ou jeunes enfants. S'il faut maintenir une certaine nuance entre ces deux mots, peut-être, c'est de dire que le premier terme, renvoie, souligne la relation naturelle d'un enfant avec son père, et le deuxième souligne la nécessité d'un enfant pour apprendre, la nécessité pour un enfant d'apprendre et de grandir. Et cela correspond aussi à ces deux choses que Jean souligne ici pour la foi, pour les enfants dans la foi spirituellement. D'une part, ils doivent savoir qu'ils sont légitimes de leur Père céleste, ils sont pardonnés, et d'autre part, ils doivent grandir et avancer dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, pour atteindre l'âge adulte. Si donc nous venons de connaître le Seigneur, venons d'intégrer la famille de Dieu, je veux nous encourager à ne jamais oublier que Dieu est notre Père, qu'il nous a pardonnés et qu'il est ce Père aimant qui veut faire de nous des adultes et non pas nous garder toujours enfants éternellement. L'enfance spirituelle, bien entendu, laisse la place à la jeunesse, un âge marqué par le combat contre le péché, contre le diable, contre soi-même, contre nous-mêmes, contre nos propres penchants naturels qui ne sont pas selon le Seigneur. Et dans cette phase, on passe donc de la jouissance du pardon de Dieu et de sa communion à une vie chrétienne active, combative sur le plan spirituel. Le pardon reçu de la part de notre Dieu laisse maintenant la place ou conduit à la délivrance de péché, à une vie de consécration, à une vie de sanctification. Et là encore, Jean nous donne trois affirmations concernant les jeunes gens. Et la première, c'est le fait que les jeunes gens ont vaincu le malin. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Le conflit contre le malin se transforme en victoire, une victoire fondée sur celle de Christ, celle que Christ a emportée à la croix. Lui qui a dépouillé les autorités, les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, il les a traînés dans un cortège triomphal à la croix, écrit Paul dans Colossiens 2. C'est sur cette base désormais de la victoire de Christ que le chrétien peut saisir les armes spirituelles que le Seigneur place entre ses mains pour laisser le Seigneur lui a laissé entre ses mains pour combattre le bon combat de la foi, pour aller jusqu'au bout de la course qui lui est proposée, la course de la foi. C'est ainsi que les jeunes gens saisissent la victoire que Christ nous offre, non seulement sur nos propres penchants naturels qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais aussi sur le malin. Et à deux reprises ici, Jean dit, les jeunes gens ont la victoire sur le malin. La deuxième chose que Jean indique au sujet des jeunes, en effet, c'est le fait qu'ils soient forts. Et le livre des Proverbes dit clairement que la fierté des jeunes gens, c'est leur force. Mais en même temps, si on écoute bien le prophète Isaïe, le Seigneur dit clairement que c'est le Seigneur la source de notre force. C'est lui qui la donne à ceux qui comptent sur lui, qui s'attendent et qui espèrent en lui. Le Seigneur donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes hommes trébuchent bel et bien, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent pas, ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, les jeunes gens qui comptent sur le Seigneur trouvent leur force, les ressources dont ils ont besoin pour avancer, pour grandir, avancer et grandir en confiance dans leur Seigneur. Enfin, les jeunes gens sont aussi, qui sont vainqueurs, gardent aussi la parole de Dieu dans leur cœur. Ils gardent la parole de Dieu. Ils découvrent simplement le principe, la puissance même de l'obéissance à la parole de Dieu, telle qu'il est soumis, telle qu'il est décrit par l'apôtre Jacques. Soumettez-vous à Dieu, à sa parole. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Vaincre le malin, le pousser à fuir loin de nous, ne peut pas se faire sans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu qui peut nous garder, qui peut aider le jeune à garder son sentier dans la pureté, sa vie dans la sainteté. Comment le jeune homme rendra pur son sentier, écrit le psalmiste. C'est en observant ta parole. Je serre ta parole, ta promesse contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Le psaume 119. Les jeunes gens découvrent le secret de l'obéissance à la parole de Dieu, la force de la parole de Dieu dans notre vie de chaque jour. Elle nous donne, c'est la clé de la victoire, c'est la clé d'une vie heureuse, selon le Seigneur, bienheureuse. En disant cela, je ne veux surtout pas dire qu'en tant que jeunes gens, on ne va pas tomber, trébucher, tâtonner. Mais si, il y aura cela. Mais au bout, il y a la victoire. Au bout du chemin, il y a la victoire qui nous est donnée, qui nous est promise, tant que nous restons à l'écoute du Seigneur. Enfin, arrivent les pères spirituels, ceux qui sont arrivés à la maturité spirituelle, ceux qui ont connu Dieu dès le commencement. C'est ainsi que Jean les présente, et il y a deux reprises, les deux fois où il évoque les pères, dans les versets, donc au début du verset 13 et le début du verset 14, il dit, ils ont connu le Père dès le commencement. Les petits-enfants sont présentés comme ceux qui font l'expérience initiale avec le Père céleste, mais les chrétiens parvenus à la maturité, les pères spirituels sont présentés comme ceux qui ont fait l'expérience de ce Dieu qui n'a pas changé avec le temps, qui ne change pas, ce Dieu qui est resté le même dès le début jusque pour toujours, hier, aujourd'hui, pour toujours, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Avec le temps, les pères sont parvenus à une profonde communion avec le Père, avec Dieu. Ils ont acquis une maturité que les expériences diverses et variées de la vie humaine leur fait comprendre de Dieu, que Dieu est réellement Dieu, qu'il est réellement Seigneur, ce Seigneur qui ne change pas. Un Dieu qui possède la perfection dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il dit, dans tout qu'il fait. Oui, lui qui dit par le prophète Malachi, « Je n'ai pas changé. » Oh, encore l'apôtre Jacques qui nous dit, « Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Oui, avec les données, les années, les expériences de la vie, les chrétiens apprennent à connaître Dieu, non seulement sur le plan biblique, ce qui est absolument fondamental, mais aussi sur le plan expérimental. Lorsqu'ils parlent de Dieu, ils savent de qui ils parlent. Ils ont une assurance, une sagesse que seul le temps permet d'avoir. Les chrétiens parvenus à la maturité ont une connaissance et une sagesse qui peuvent faire beau justement lorsqu'on est jeune et qui peut manquer cruellement lorsqu'on est enfant dans la foi. Jean fait le constat de ces différentes étapes de notre cheminement spirituel. Néanmoins, nous pouvons déduire quand même un engagement sous-jacent à aller de l'avant, à tendre vers la maturité. La première chose que nous pouvons noter pour conclure, que je vous propose de noter pour conclure, c'est la nécessité, me semble-t-il, de grandir. Grandir dans la foi n'est pas forcément, bien sûr, à notre âge, donc n'est pas lié à notre âge de conversion. Certains, bien qu'ils soient jeunes, en âge naturel, après leur conversion, vont tellement vite et arrivent à avancer d'une manière admirable, avec une belle vitesse et avec la profondeur souhaitée sur le plan spirituel comme sur le plan humain. D'autres, par contre, ils peuvent passer toute leur vie chrétienne dans la phase initiale, tout en restant enfants spirituels, incapables de comprendre certains éléments importants de la foi chrétienne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, du jour, dit sur ce point, « Après tout ce temps, écrit-il au chapitre 5, vous devriez être des maîtres sur les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venu à un point d'avoir besoin non de la nourriture solide, mais du lait. » La foi chrétienne nous invite à grandir en maturité, nous invite à porter du fruit autour de nous. Nous n'avons pas à passer notre vie dans le premier émerveillement de découvrir la foi chrétienne. Nous sommes invités à avancer, nous sommes invités à quitter la ligne de départ, parce qu'il va falloir courir, peut-être un peu, mais aller en tout cas vers la ligne d'arrivée. La deuxième chose à souligner, c'est le temps nécessaire, me semble-t-il, pour cette croissance. Un enfant a besoin de temps pour grandir, devenir jeune avant d'atteindre l'âge de la maturité et de la sagesse. Cela implique concrètement que les pères spirituels, ceux qui sont parvenus à la maturité dans une famille, dans la famille que nous formons, doivent accompagner aussi l'accompagnement, la croissance de ces enfants, doivent encourager le combat de ces jeunes, de nos jeunes gens. J'aimerais dire ici à chacun de ne pas oublier, pour ceux qui sont parvenus en tout cas à ce stade de maturité, ne pas oublier tout ce que nos prédécesseurs, tout ce qui ont été pour nous des pères, tout ce qui nous ont porté, tout ce qu'ils ont supporté, ils ont dû supporter pour que nous puissions arriver là où nous sommes. Car nous ne sommes pas le fruit de nous-mêmes. C'est une illusion de penser que ce que nous sommes n'est que le fruit de nous-mêmes. Bon, pour spiritualiser un peu la chose, on peut dire de notre relation avec Dieu. Donc on ne va pas exclure quand même Dieu. Mais cela, c'est une illusion. Ce que nous sommes, c'est le fruit de tout ce que les frères et sœurs ont investi dans notre vie et au passage de toute la patience qu'ils nous ont manifestée et ils nous ont supportée. À partir de ce moment-là, c'est maintenant à ceux qui sont arrivés à cette sagesse, à cette maturité, de supporter ce qui arrive dans l'Église et de ne pas s'agiter pour des choses inutiles et pour rien, mais d'avoir la patience et la persévérance nécessaires pour leur donner à eux aussi le temps de grandir et de se développer. En effet, il y aura des erreurs. Un enfant a besoin de faire des erreurs pour grandir. Un jeune homme aussi a besoin, à un moment ou à un autre, de penser qu'il a tout compris. Mais réellement, il n'a rien compris. Mais ce n'est pas grave, il va le penser pour juste un moment. Après, il finira par comprendre qu'il n'a rien compris. Mais pour cela, il faut que les adultes puissent le comprendre, puissent le laisser vivre cette étape-là. On ne peut pas lui enlever cette étape-là. Donc, la patience, la persévérance de ceux qui ont acquis cette sagesse, cette intelligence, cette maturité spirituelle à l'égard des enfants et de ceux qui avancent. En même temps, il nous faut dire quand même un mot pour ceux qui avancent, pour les petits, pour les jeunes. De la même manière que nous avons commencé par les pères, il faut dire quand même un mot pour les enfants et pour les jeunes. Il me semble que nous sommes invités à profiter autant que nous le pouvons de la sagesse des frères et sœurs que Dieu place autour de nous. Nous sommes une famille où Dieu nous donne vraiment le privilège d'avoir toutes les catégories, toutes les étapes de la vie parmi nous. Surtout, même si nous sommes très convaincus de ce que nous pensons et certains de toutes nos convictions, écoutons ce que les autres ont à nous dire, cela pourra nous servir un jour. Et pour les enfants, bien sûr, c'est bien aussi d'être réceptif et de garder le regard, de prendre des exemples des frères et sœurs autour de nous pour avancer. Mais c'est une illusion de vouloir rester petit ou encore jeune, parce que dans notre société, c'est à la mode. Dans le cheminement chrétien, ce n'est pas à la mode de rester jeune. Non, il faut grandir et atteindre une certaine maturité et ressembler à la stature de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, j'entends sur le plan spirituel, sur le plan naturel, chacun fait ce qu'il pense être bon. Voilà, donc j'aimerais aussi bien nous encourager mutuellement à profiter pleinement de toutes les richesses que Dieu donne à cette famille que nous formons pour qu'ensemble nous puissions faire un pas de plus, un pas de l'avant pour avancer vers l'objectif que le Seigneur fixe devant nous. Qu'il nous accompagne par son esprit, qu'il nous éclaire par sa parole et qu'il nous donne, qu'il répande son amour dans notre cœur pour que cet amour-là nous permette d'être vraiment en bénédiction les uns pour les autres. Amen.